C'est le moment de retrouver une émission mensuelle pour les droits humains, pour la dignité. C'est avec Régis Coulange et c'est tout de suite après ce générique. Bonjour et bonne journée à tous. Pour la dignité, donc cette émission sur les droits humains, avec préparée et animée par Régis Coulange, responsable formation Amnesty International. Donc c'est tout de suite. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, ben, nous reprenons nos émissions avec cette rentrée et la reprise donc des activités du groupe Dinois, bien que les membres d'Amnesty International, même pendant les vacances, continuent à agir, notamment en envoyant des actions urgentes dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, alors bien sûr, notre groupe est ouvert à toutes les personnes qui désireraient s'engager en faveur des droits humains. On fait une réunion mensuelle le dernier mardi de chaque mois, donc la prochaine, ce sera mardi 29 octobre à 17h. On se réunit chez Madame Blanc, qui a la villa qui se trouve juste derrière le parking de l'étal des Trois-Vallées. Voilà, n'hésitez pas à venir assister à une réunion et voir si ça vous intéresse. Voilà, alors quels sont le programme du groupe Dinois? Alors, cette semaine, nous organisons notre foire au livre, notre célèbre foire au livre, puisque ça fait plus de 20 ans que nous faisons cela au printemps et à l'automne. Voilà, alors nous avons des milliers de livres qui sont uniquement des dons qui nous sont faits. On les range, on les classe, et puis ça sera ouvert au public dans la salle de l'Atrium à Digne-les-Bains le vendredi 11 octobre de 9h à 18h, non-stop, et puis le samedi 12 octobre de 9h à 14h. Alors si vous voulez faire le plein de livres pour pas cher pour cet hiver, n'hésitez pas à venir. Alors bien sûr, si vous voulez aussi nous aider, parce que c'est beaucoup de travail, vous pouvez venir nous aider à porter les livres ou à les ranger le mercredi 9 octobre à 14h, rendez-vous à l'Atrium, ou le samedi 12 octobre à 14h, à la fin de la foire, rendez-vous aussi à l'Atrium pour ranger et porter les caisses. Voilà. On a besoin de monde, parce que plus on est nombreux, plus c'est facile. Voilà, ce qu'on a prévu aussi, c'est une tournée d'Antoinette Chahine dans la région, et notamment à Manosque, à Digne et à Gap. Voilà, Antoinette Chahine, c'est une ancienne prisonnière d'opinion qui avait été condamnée à mort, torturée, et qui, grâce à Amnesty, et notamment la CAT aussi, a été libérée à son procès en appel, puisqu'elle était complètement innocente. Et depuis, elle milite inlassablement contre la torture qu'elle a connue et contre la peine de mort dont elle avait été condamnée. Voilà, donc on espère qu'elle va pouvoir venir, parce qu'elle est libanaise. Et ça... Bon, vous savez la situation au Liban, qui était déjà catastrophique avant l'attaque d'Israël sur le Hezbollah. Mais ça devient extrêmement dangereux. Ça bombarde, elle entend les bombardements, il y a des attentats. Ça a compliqué encore l'alimentation, les soins. Enfin, elle vit un peu dans la terreur. Elle espère quand même venir, donc on verra. Voilà, et puis je vous parlerai donc des actions urgentes. On va maintenant écouter une chanson de Jacques Lair, qui est un Dinois, qui avait composé une chanson dans le cadre d'un spectacle qu'on avait donné. Et il a composé une chanson d'Amnesty, sur Amnesty International, et qui explique un peu ce qu'est Amnesty pour notamment les prisonniers qui sont injustement emprisonnés. Voilà, on l'écoute.
Seul délit j'ose penser, trop fort trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme. Amnestie, amnestie, allume ta bougie. Amnestie, amnestie, écris-moi je t'en prie. Libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faible essai d'être un enfant, né d'une ville à feu à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme, pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis, qui étaient hier mes amis. Ils ont blessé mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi je t'en prie, je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre, jeune et joli livré aux fauves, qui m'offre une cage dorée, où je me sens sali, bafoué, privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi je t'en prie, efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier, sous peine de connaître l'enfer et terminer six pieds sous terre. Il crache sur mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi je t'en prie, les dieux volent en paix et en ombre sous les ailes de la colombe. Seul délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi je t'en prie, tes coups de plume sur le monde, ouvre la cage de ma colombe. Amnestie, amnestie, allume tes bougies. Amnestie, amnestie, écris-nous je t'en prie. Amnestie, amnestie, j'allume ma bougie. Amnestie, amnestie, pour libérer, j'écris.
Voilà, très belle chanson de Jacques Lair, hein, un Dinois ami d'Amnesty, qui a fait cette chanson qui résume bien le travail et l'espoir que suscite Amnesty, voilà, pour des gens injustement en prison. Voilà, nous sommes donc le 7 octobre, un an après les massacres perpétrés par le Hamas. Et je vous propose un entretien que nous avons réalisé et qui se trouve dans la chronique, c'est le magazine des droits humains d'Amnesty International. Ce journal, vous le retrouvez à la médiathèque de Digne, parce que nous avons abonné la médiathèque. Donc c'est le numéro d'octobre 2024, et il y a un entretien avec un historien, Vincent Lemire, qui est l'ancien directeur du Centre de recherche français de Jérusalem, et auteur du roman graphique « Histoire de Jérusalem ». Et il nous éclaire sur ces événements tragiques au regard de l'histoire du conflit israélo-palestinien. La violence de l'attaque du 7 octobre et de la destruction de Gaza ranime dans les deux camps des mémoires traumatiques. Est-ce que vous pouvez les définir? Alors voilà ce qu'il nous dit. Il faut faire la part entre la mémoire et l'histoire. Un événement peut réactiver une mémoire traumatique, sans pour autant être strictement comparable sur le plan factuel et historique. Chez les Israéliens, cette attaque a réveillé la mémoire des pogroms et de la Shoah. La phrase évoquant le pire massacre des Juifs depuis la Shoah témoigne à elle seule du choc ressenti par beaucoup d'Israéliens qui ont vu trembler sur ses bases le contrat fondateur qui relie les citoyens à leur État, créé en 1948, précisément pour les mettre en sécurité. Chez les Palestiniens, la menace d'une possible expulsion de 2,5 millions de Gazaouis vers l'Égypte a réveillé le traumatisme de la Nakba, l'expulsion de 750 000 Palestiniens en 1948-49, les bombardements massifs sur Gaza, le meurtre de Palestiniens en Cisjordanie, ravivent également le souvenir des massacres du village palestinien de Deir Yassin en 1948 ou des camps de réfugiés de Sabra et Shatila en 1982 par des chrétiens libanais soutenus par l'armée israélienne. Comment situez-vous l'événement dans l'histoire longue du conflit israélo-palestinien ? Alors voilà ce qu'il nous dit. Le 7 octobre est un tournant radical. Ce conflit a connu une succession de guerres interétatiques, 48, 67, 73, d'intifada en 87, en 2000, puis l'échec des accords d'Oslo en 93 et enfin les accords d'Abraham en 2020. Le 7 octobre a mis fin au mirage des accords de paix du passé et à cette illusion de croire que les accords commerciaux entre Israël et les régimes autoritaires arabes pourraient régler la question palestinienne. Avec le 7 octobre, on a basculé dans une autre ère, que j'appellerai la guerre existentielle, ce moment où les deux parties considèrent à tort ou à raison que l'adversaire veut définitivement le supprimer. C'est le « eux ou nous » qui autorise et encourage les pires actions. Alors, que peut le droit international lorsque les deux camps sont arrivés à ce point ? Le moment est paradoxal. Depuis le 7 octobre, le droit international est piétiné sur le terrain comme rarement depuis 1945. Les diplomaties sont inopérantes puisque sur le terrain, la force des armes domine tout. Mais en même temps, le droit international n'a jamais été autant invoqué et convoqué. Les juges de la Cour pénale internationale pour poursuivre les auteurs de crimes et ceux de la Cour internationale de justice pour juger les États sont extraordinairement actifs. La CPI a enquêté, elle accuse trois chefs du Hamas, Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La CIJ, de son côté, instruit une plainte pour génocide à Gaza. En janvier, elle a considéré que le fait de rendre un territoire invivable ou d'affamer des familles définit un risque plausible de génocide. Et elle exhorte Tel Aviv à punir l'incitation publique à commettre un génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Mais cette incitation publique à commettre un génocide est-elle documentée ? Le 28 décembre 2023 à Jérusalem, 11 ministres du gouvernement israélien ont participé à une conférence pour la recolonisation de Gaza. Le ministre de la Communication y a affirmé que l'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. Celui de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a ajouté que la seule solution, c'est la déportation massive des habitants de Gaza. Quelques semaines auparavant, Netanyahou évoquait l'objectif de réduire la population de Gaza à son strict minimum, et son ministre des Finances indiquait l'objectif chiffré de 100 à 200 000 Palestiniens à Gaza, ce qui supposerait d'en expulser 2,3 millions. Si l'on ajoute à ces déclarations celle d'une ministre de la Défense israélienne comparant en octobre les Palestiniens de Gaza à des animaux humains, elles entrent toutes dans la définition extensive de l'intention génocidaire sur laquelle doit statuer la Cour internationale de justice. Rappelons en effet que cette Cour a pour mandat explicite la prévention autant que la répression du crime de génocide. Un cessez-le-feu vous semble-t-il encore négociable ? Il se négocie en ce moment même, mais ses pourparlers cachent aussi des agendas masqués. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien sait que du jour où il signera un cessez-le-feu, ses ministres d'extrême droite risquent de se retirer de la coalition et alors son gouvernement tombera. Il y a aussi une grosse difficulté pratique. Avant l'été, côté palestinien, le négociateur était le numéro un du Hamas, Ismaël Haniyeh. Il vivait à Doha avec un téléphone cellulaire. Les Israéliens l'ont abattu le 31 juillet en Iran. Le chef de la branche militaire du Hamas Aya Sinwa, l'homme qui a organisé le 7 octobre, a pris sa place et lui négocie depuis un sous-sol secret de Gaza, loin de tout téléphone qui permettrait de le localiser. Cela peut prendre plusieurs jours pour qu'il réponde à une simple question, ce qui ralentit considérablement les tractations. Voilà, donc l'article continue. Si vous voulez le lire en entier, je vous invite à aller à la médiathèque de Digne et vous empruntez la chronique du mois d'octobre. Voilà, donc on va maintenant passer à une chanson de Zao de Sagazan qui a chanté pour la fin des Jeux Olympiques. Voilà, une très belle chanson. C'était un moment où vraiment on sentait de l'unité dans ce monde si divisé.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vous chantez. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Et quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Voilà, c'était un moment un peu magique. Bon, je vais maintenant vous parler des actions urgentes. Donc, c'est une forme d'action d'Amnesty International. Quand on est au courant d'un danger pour un défenseur des droits humains, un danger où il faut réagir rapidement, on envoie des actions urgentes aux personnes qui se sont portées volontaires. D'ailleurs, c'est pas la peine d'être membre d'Amnesty, on peut aussi s'abonner aux actions urgentes et de temps en temps envoyer un courrier en direction d'autorités pour demander des libérations, un procès équitable, la fin de torture, etc. Alors, je vais vous parler des deux dernières actions là, que j'ai faites hier et que j'envoie aujourd'hui. Alors, je l'envoie. La première action, c'est en direction du Bélarus. Vous savez, ce pays qui est sous dictature, ami de la Russie. On envoie au ministre de l'Intérieur. Voilà, donc c'est toujours en termes polis. Monsieur le ministre, je vous écris pour vous demander des informations publiques au sujet de la prisonnière d'opinion, Maria Kolesnikova, qui est privée de tout contact avec le monde extérieur depuis plus d'un an. Son état de santé qui se dégrade et sa sécurité suscitent de vives inquiétudes. Je suis particulièrement inquiet du fait qu'elle soit détenue au secret depuis plus de 500 jours et que les conditions de son incarcération s'apparentent à de la torture et à de mauvais traitements et mettent sa vie en danger. Elle est arrêtée en septembre 2020 et par la suite condamnée à 11 ans de prison à l'issue d'un procès inique pour de fausses accusations d'extrémisme, tentative de s'emparer du pouvoir et appel à des actes portant préjudice à la sécurité nationale. Depuis février 2023, elle est privée de tout contact avec le monde extérieur et est régulièrement placée dans des cellules d'isolement disciplinaire pendant des périodes prolongées. Pendant tout ce temps, elle est confinée dans un espace minuscule et clos. Il lui interdit de communiquer avec d'autres prisonnières et elle n'est autorisée à sortir que 30 minutes par jour dans la cour de la prison. Maria souffre d'un ulcère et d'autres affections qui progressent rapidement dans ces conditions inhumaines et ne reçoit pas les soins médicaux dont elle a besoin. Des sources confidentielles ont alerté sur le fait qu'elle se trouve dans un état très préoccupant et a perdu beaucoup de poids. C'est une prisonnière d'opinion qui doit être libérée immédiatement et sans condition. Elle est détenue uniquement à titre de représailles pour son rôle de leader dans la contestation des résultats de l'élection présidentielle controversée de 2020 et les manifestations pacifiques qui ont suivi. Voilà, je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour que Maria soit libérée immédiatement et sans condition. Dans l'attente, je vous prie de veiller à ce qu'elle soit, ne soit plus détenue au secret ni soumise à aucune forme de torture et de mauvais traitement et à ce qu'elle puisse bénéficier de soins médicaux adaptés. Veuillez agréer, monsieur le ministre, expression de ma haute considération. Voilà donc pour ce courrier avec copie à l'ambassade de Bélarus à Paris. La deuxième action, que j'envoie aussi aujourd'hui, concerne l'Iran. On écrit aux responsables du pouvoir judiciaire et à l'ambassade d'Iran auprès de l'Union européenne. Voilà, ça concerne une travailleuse humanitaire et militante de la société civile, Pascan Azizi, 40 ans, qui risque d'être exécutée en raison de sa condamnation à mort en juillet 2024 par la 26e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Elle a été déclarée coupable de rébellion armée contre l'État, uniquement en raison de ses activités pacifiques de défense des droits humains et humanitaires. Par exemple, entre 2014 et 2022, elle a participé à l'aide humanitaire apportée aux femmes et aux enfants déplacés à la suite d'attaques menées par le groupe armé État islamique et à l'accueil de personnes dans des camps dans le nord-est de la Syrie et dans la région du Kurdistan irakien. Elle a introduit un recours devant la Cour suprême. Le 4 août 2023, des agents du ministère du Renseignement l'ont arrêté au domicile de sa famille à Téhéran et l'ont soumise à une disparition forcée qui constitue un crime du droit international. Transférée dans la prison d'Evin à Téhéran, qui est sous le contrôle du ministère du Renseignement, elle est détenue à l'isolement pendant 5 mois. Selon des sources bien informées, elle a été soumise à la torture et d'autres formes de mauvais traitements lors de ses interrogatoires. Les agents lui ont dit et redit qu'elle n'avait pas le droit de vivre et l'ont menacée de l'exécuter. Ils l'ont également soumise à des violences fondées sur le genre afin de l'obliger à avouer des liens avec des groupes d'opposition kurde, ce qu'elle a systématiquement nié. Le procès de Azizia a été entaché d'irrégularités flagrantes. Elle n'a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle n'a eu le droit qu'à quelques appels téléphoniques avec les avocats qu'elle avait choisis environ 3 semaines avant le début de son procès. Le verdict du tribunal a notamment retenu, en tant que preuve, contre elle, son arrestation en 2009 lors d'une manifestation contre l'exécution d'un Kurde iranien. Le verdict indique également qu'elle a apporté son soutien aux familles de personnes tuées illégalement lors des manifestations nationales de 2022. Voilà, donc on demande de suspendre toute procédure visant à l'exécuter, d'annuler sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à mort, de la libérer immédiatement et sans condition, car elle est détenue uniquement en raison de ses activités pacifique, humanitaire, de défense des droits humains. Voilà, donc je vais envoyer ce courrier, mais je ne suis pas le seul à faire ça, puisqu'on est des milliers à avoir reçu cet appel d'action urgente, et des courriers vont arriver de tous les pays, de nombreux pays, pour demander justice pour ces deux personnes. Voilà. Et c'est régulièrement qu'on fait ce genre d'action urgente, et voilà. Alors, par exemple, la Foire aux Livres nous permet d'acheter des timbres, puisque ça revient quand même assez cher, pour justement envoyer toutes ces actions. Voilà, on va maintenant écouter Lise Martin dans sa chanson « Songer ».
Songer qu'au moment même où nous n'osons souffrir, quelque part il en est qui s'aiment et qui s'affrontent, dès qu'ils ôtent leur masque se laissant découvrir, dès qu'ils osent se donner et se livrer sans honte. Songer qu'au moment même où nous n'osons aimer, quelque part il en est qui brisent leur forteresse, dès qu'ils ouvrent leur cœur sans peur d'être blessés, dès qu'ils savent être forts de leur belle faiblesse. Songez qu'au moment même où nous osons risquer, quelque part il en est qui savent enfin en rire, dès qu'ils se battent pour être libres d'aimer, dès qu'ils se laissent contre toute raison jouir. Songer comme on aime, nous en risquer, quelque part il en est qui savent enfin en rire, se battre pour être libres d'aimer, dès qu'ils se laissent contre toute raison jouir. Avance droit en oubliant la peur, dès qu'il avance fier en oubliant la peur.
Voilà, donc on va parler maintenant de la Tunisie. Vous avez dû entendre ce matin que le président sortant a été réélu avec un nombre très important en pourcentage de voix. Mais il y a quand même 72% de personnes en Tunisie qui ne se sont pas déplacées pour aller voter. Ce qui est une bonne indication de cette dérive autoritaire du pouvoir en Tunisie. Comment en est-on arrivé à constater une véritable érosion de l'état de droit ? Comment expliquer le virage autoritaire pris par le président Kais Saied, cet ancien professeur de droit élu démocratiquement à la tête de l'État en 2019 et qui aujourd'hui ravive les heures sombres de la dictature en Tunisie? Et pourtant, la Tunisie, en 2011, souvenez-vous, c'était le berceau des printemps arabes et un espoir immense pour ces pays. 25 juillet 2021, La dérive autoritaire pourrait prendre date en ce jour où le président Saïed a opéré son coup de force. Il limoge le Premier ministre, gèle les travaux du Parlement et prend le contrôle exécutif du pays. Son objectif affiché, répondre à la crise politique traversée par la Tunisie, où les partis étaient émiettés et où la corruption battait son plein. En réalité, depuis ce 25 juillet 2021, Saïed a commencé à détricoter les acquis de la révolution du printemps arabe de 2011. Il a démantelé le régime parlementaire mis en place au lendemain de la révolution pour concentrer l'essentiel du pouvoir entre ses mains. Le 5 février 2022, le président a dissous le Conseil supérieur de la magistrature, le dernier bastion de l'impartialité judiciaire né après la révolution tunisienne de 2011 pour protéger les juges de l'influence du gouvernement. Cette immixtion dans le système judiciaire se poursuit dans le cadre des élections présidentielles qui se sont déroulées hier. Depuis 2011, une institution est chargée d'organiser le bon déroulé des élections, l'instance supérieure indépendante pour les élections. Ses membres, nommés directement par le président, donc l'indépendance est plutôt critiquable, n'ont approuvé que 3 candidatures à l'élection présidentielle, dont celle, bien sûr, du président Kais Saïed. Les principaux opposants au président qui auraient pu se présenter comme candidat à l'élection présidentielle sont aujourd'hui en prison, accusés d'avoir fait des dons pour influencer des électeurs. En 2 jours seulement, les 12 et 13 septembre 2024, 97 membres du parti d'opposition ENADA sont arrêtés. Ils font désormais l'objet d'une enquête pour des accusations de complot. Avant l'intensification de la répression liée au contexte préélectoral, des arrestations ubuesques ont eu lieu en Tunisie. Le 11 mai 2024, des hommes cagoulés débarquent en pleine nuit dans la maison des avocats à Tunis et arrêtent violemment Sonia Damani, avocate tunisienne de renom. Une arrestation filmée en direct par les caméras de France 24 qui démarrait un duplex au moment où les policiers en civil ont fait irruption dans la maison des avocats. Sonia Damani a été arrêtée suite à des propos qu'elle avait tenus sur un plateau télévisé qui critiquait la politique migratoire des autorités tunisiennes. De quel pays extraordinaire parle-t-on? Celui que la moitié des jeunes veulent quitter? Pour cette phrase, Sonia Damani a été condamnée à 8 mois de prison, accusée de diffuser de fausses informations. L'un des acquis de la révolution de 2011 aura été la liberté de la presse, qui était totalement muselée pendant la dictature de Ben Ali. C'est à cette liberté d'expression retrouvée, l'un des souffles de la révolution, que s'attaque désormais le président Kais Saïed. En pleine période électorale, l'instance en charge de l'indépendance des élections a tenté de restreindre la couverture électorale par les médias. 4 stations de radio privées ont reçu des avertissements suite à des reportages pointant le processus électoral, selon le Syndicat national des journalistes tunisiens. Pour son numéro de septembre, le magazine Jeune Afrique consacre sa une au président tunisien. Le portrait de Saïed sort derrière l'ombre d'un drapeau tunisien avec en titre « L'hyper-président ». Les autorités ont interdit la diffusion de ce numéro en Tunisie. Jeune Afrique dénonce un triste retour aux années Ben Ali. Il y a, en plus de ces attaques contre les médias, vient s'ajouter la censure en ligne, et en particulier depuis l'adoption du décret loi 54 qui sanctionne de lourdes peines de prison le fait de partager de fausses informations en ligne définies de façon vague et ambiguë. 2 ONG tunisiennes en charge de surveiller les élections depuis 2014, l'ONG Anticorruption et l'ONG Mourakibou, n'ont pas été autorisées à observer le déroulé des élections qui se sont passées hier. C'est dans ce contexte préoccupant que se sont déroulées ces élections et qui ont vu la victoire du président sortant, puisqu'il avait éliminé tous ses opposants. Voilà, donc la communauté internationale doit d'ores et déjà dénoncer l'escalade de la répression, documentée par de nombreuses organisations de la société civile, et exhorter les autorités tunisiennes à y mettre fin. On va maintenant écouter une autre chanteuse qu'on n'entend pas beaucoup, Marion Cousineau, Je reviens.
Je reviens encore à la même place. glace de mon corps. On a déjà vu la mer rendre certains corps qu'on croyait porter disparus. Je reviens encore faire semblant d'attendre devant l'eau qui dort. Je reviens encore. Je viens de comprendre, c'est moi les renforts. Je reviens encore sur les lieux du crime. Je me
belle voix. Bon, dans ce monde difficile, je vais quand même vous donner quelques bonnes nouvelles. Depuis le début de l'année, grâce à notre travail d'enquête, de plaidoyer, mais surtout grâce à la mobilisation militante à travers le monde, nous avons obtenu de nombreuses avancées et victoires. Des personnes ont été libérées de prison, des lois modifiées pour un meilleur respect des droits humains, et justice a été rendue dans plusieurs affaires. Par exemple, nous comptons une dizaine de libérations dans le monde auxquelles nous avons contribué. Nous étions à côté de ces personnes parfois dès les premiers jours de leur incarcération. C'est le cas de Julian Assange, dont l'affaire a eu un retentissement à l'international. Après avoir passé 5 ans dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni, le fondateur de Wikileaks a enfin conclu un accord avec les autorités américaines et a été libéré le 26 juin 2024. Grâce à notre mobilisation, d'autres personnes ont également été libérées, à l'instar du défenseur des droits humains Daouda Diallo, qui a été remis en liberté en mars au Burkina Faso, de même que le militant Abdullah Al-Holofi, qui a été libéré après avoir passé plus d'un an en détention arbitraire au Yémen. Daouda Diallo nous a écrit « Je voudrais remercier Amnesty International et tous ceux qui se sont mobilisés en faveur de ma libération. » Ces appels furent une lueur dans la solitude de mon calvaire, me rappelant que je n'étais pas seul. Restons unis dans notre engagement à défendre les principes de justice, d'égalité et de dignité pour tous. Voilà, c'est ce genre de message qui nous fait continuer à écrire inlassablement pour faire libérer ces personnes. En plus de ces libérations individuelles, nous avons fait campagne pour dénoncer les arrestations massives de personnes dans le cadre de manifestations. Au Sénégal, 600 personnes arrêtées pour avoir appelé ou participé à des manifestations ont été considérées comme des partisans de l'opposition, ont été libérées en janvier. Vanessa Mendoza Cortés est une militante pour le droit à l'avortement en Andorre. Elle a été jugée parce qu'elle avait dénoncé l'interdiction totale de l'avortement dans la principauté. Elle a finalement été acquittée en janvier après une mobilisation massive de nos militants et militantes à travers le monde. Et elle nous a écrit « Vous faites partie de cette victoire collective et pacifique. Malgré les années difficiles, je me sens chanceuse de marcher à vos côtés. Notre force réside dans notre solidarité et dans la défense mutuelle de nos droits. » Le droit à l'avortement continue d'être menacé à travers le monde et c'est pourquoi nous avons fait campagne aux côtés d'autres organisations nationales pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française. En mars 2023, le Congrès français a voté en faveur de l'inscription de l'avortement comme une liberté garantie par la Constitution de la République, une avancée dans notre pays, mais aussi pour la défense du droit à l'avortement dans le monde entier. Depuis le début de l'année, plusieurs pays ont adopté un projet de loi visant à assurer l'égalité devant le mariage pour les personnes LGBTI. En février, la Grèce légalisait le mariage pour les personnes du même sexe et permettait à ces personnes d'adopter. Nous avons accueilli positivement ce changement de législation pour lequel nous avons milité, mais appelons le gouvernement grec à introduire de nouvelles modifications législatives afin de garantir la pleine égalité aux personnes et aux familles LGBTI. En juin, la Thaïlande est devenue le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage pour les couples LGBTI. Au Japon, des décisions historiques dans le cadre de deux affaires concernant des mariages entre personnes de même sexe ont également été rendues à la suite du travail que nous avons mené. En reconnaissant que l'interdiction par le gouvernement du mariage entre personnes de même sexe est contraire à la Constitution, ces décisions indiquent sans ambiguïté que cette discrimination n'a pas sa place dans la société japonaise. On va maintenant écouter à nouveau Marion Cousineau, combien de fois et à qui.
Il y a toujours une femme qu'on aurait voulu être, personnage de Dali qui rêve à la fenêtre. Son dos est triste et beau, revêtu des peut-être que tu n'as su écrire dans aucune de tes. Et toujours un bateau qui nous regarde en coin, parangon fatigué d'un rêve au creux des reins, qui apparaît bientôt. Demain c'est sûr, demain, demain par le hublot, c'est sûr. T'as peut-être déjà vécu les trois quarts de ta vie, peut-être juste la moitié ou le début à peine. Qu'est-ce que tu en as fait et à quoi t'as servi? Combien de fois et à qui as-tu dit je t'aime? Il y a toujours une cage sans vue et sans balcon, et toujours un cordage tressé de fleurs sans nom qu'on lance dans les naufrages ou qui pend au plafond. Et ça prend du courage de le saisir ou non. T'as peut-être déjà vécu les trois quarts de ta vie, peut-être juste la moitié ou le début à peine. Qu'est-ce que tu en as fait? À quoi t'as servi?
t'as peut-être déjà vécu les trois quarts de ta vie, peut-être juste la moitié. Que tu en as fait et à quoi t'as servi? Combien de fois y as-tu, as-tu dit je t'aime?
Voilà, on continue dans les bonnes nouvelles. Vous savez qu'Amnesty International s'est engagé en faveur de l'environnement, hein, puisque ça concerne aussi les droits humains. Et donc, par exemple, à la suite d'un de nos rapports, le ministère de l'Environnement a suspendu les activités de la société de recyclage Metsa Congo en raison des risques pour la santé de la population locale et l'environnement. Lors de la rédaction de ce rapport, nous avions aidé les habitants à effectuer des analyses sanguines montrant des niveaux élevés de plomb chez eux, chez ceux vivant près de l'usine, y compris les enfants. En 2018, nous prouvions dans une de nos recherches la responsabilité de la société minière Meya dans la pollution de l'eau consommée dans le district de Kono, en Sierra Leone. La concentration de nitrate contenue était deux fois supérieure à celle fixée par l'Organisation mondiale de la santé. En réaction à ces conclusions, les autorités sierra-léonaises avaient adressé une lettre à l'entreprise pour lui demander de répondre à ses préoccupations. Selon un récent rapport d'un consultant indépendant, les niveaux de nitrate dans l'eau sont maintenant conformes aux directives de l'OMS en eau potable. En Europe également, un groupe de femmes, de retraitées en Suisse, ont intenté un premier procès sur le climat devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et elles ont obtenu gain de cause. Le 9 avril 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son verdict et jugé que le gouvernement suisse n'avait pas respecté ses obligations en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le changement climatique. Il y a eu aussi des décisions fortes au niveau mondial pour la promotion de la justice internationale et lutter contre l'impunité. Nos appels à la Cour pénale ont été entendus. Plusieurs hauts responsables militaires russes sont désormais sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Parmi eux, le lieutenant général Kobylash, l'amiral Sokolov, l'ancien ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major, Gerasimov. Ces hauts responsables sont soupçonnés de diriger des attaques contre des biens de caractère civil et de causer des dommages indirects et excessifs aux civils. La légalité d'un autre mandat d'arrêt a été confirmée par la Cour d'appel de Paris. Le mandat d'arrêt visant Bachar al-Assad, président de la Syrie, accusé d'être responsable de l'utilisation d'armes chimiques en Ghouta orientale en Syrie en 2013. La Cour d'appel a confirmé qu'à titre exceptionnel, un chef d'État en exercice peut ne pas bénéficier de l'immunité devant les juridictions étrangères, une première pour sa juridiction nationale. La coopération dans les affaires impliquant des crimes de droit international était renforcée par la Convention de Ljubljana-La Haye, signée par 34 États. L'objectif, faciliter l'obtention de la justice aux victimes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre en consolidant le cadre de la justice internationale grâce à de nouveaux outils. Une avancée importante dans la lutte contre l'impunité. Notre mobilisation continue auprès des décideurs politiques, notamment au niveau français, pour lever les verrous de la compétence universelle, mais aussi à l'international, pour promouvoir la justice internationale et la lutte contre l'impunité. Voilà, je vais vous rappeler un petit peu les actions du groupe d'Inois. Donc, notre foire aux livres, hein, qui va être ouverte à l'Atrium, dans la salle de l'Atrium à Digne-les-Bains, le vendredi 11 octobre de 9h à 18h, et le lendemain, le samedi 12 octobre, de 9h à 14h. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Nous avons de nouveaux livres qu'on nous a donnés depuis la dernière foire. Et voilà, c'est important parce que Amnesty n'a aucune subvention, parce qu'elle n'en demande aucune, pour rester indépendante. Et donc, on a besoin de financer toutes nos recherches, nos rapports et nos actions. Voilà, donc on a aussi à Digne un prisonnier d'opinion dont on s'occupe plus personnellement. Il s'appelle Luis Manuel Otero Alcantara. C'est un artiste cubain qui a été condamné à 5 ans de prison pour avoir manifesté son opposition à l'autoritarisme à travers son art. Voilà, il vient de recevoir le prix RAFTO des droits humains. Comme beaucoup d'artistes avant lui, son art et son engagement civique repoussent les limites de la liberté d'expression face à la censure et à la répression. Donc ce prix lui a fait bien plaisir, bien qu'il soit toujours, hélas, en prison. On pense qu'il y a jusqu'à 1000 prisonniers politiques à Cuba, notamment de gens qui ont été condamnés suite aux manifestations historiques du 11 et 12 juillet 2021, où les gens réclamaient de meilleures conditions de vie. Voilà. Donc, créée en 1987, la fondation RAFTO et son prix doté de $20,000 portent le nom de l'historien et militant des droits humains norvégien Thorolf RAFTO, mort un an plus tôt. Voilà. Et donc, on continue à s'occuper de cet artiste et a demandé sans cesse sa libération. Notre prochaine réunion, le samedi 19 octobre, on a une réunion régionale à Aix. On regroupe l'ensemble des groupes de la région Provence-Alpes et Corse. Le 29 octobre, donc, c'est la réunion du groupe. N'hésitez pas à venir si vous voulez voir comment ça se passe. Et puis, on espère qu'Antoinette Chahine, défenseuse des droits humains libanaise, pourra venir en France. Dans ce cas-là, elle sera le jeudi 7 novembre à Digne, où elle sera invitée par les antennes jeunes. Le matin, l'antenne jeune du lycée Pierre-Gilles de Gênes, et l'après-midi, l'antenne jeune du lycée Alexandra Davinel. Donc, elle espère beaucoup pouvoir venir nous rencontrer, parler de sa lutte contre la torture, la peine de mort, et puis de la situation dramatique dans laquelle son pays est plongé. Voilà, on va écouter pour terminer Bella Ciao dans sa version en persan.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi parim asho. شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا، خاک این گندم تو خیابونه، خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارون، حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست، دنیای تاره این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه، از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب، یکی میگه